I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés pour le petit moment qu'on va passer ensemble. Aujourd'hui, c'est pas le plus chouette, amusant et rigolo des sujets. Mais je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de bon moment pour vous parler de ça, mais j'ai eu quelques demandes. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que elle avait le cœur brisé. Et vous m'avez demandé un petit peu d'aide. En mode, Léa, est-ce qu'on pourra avoir un retour d'expérience sur tes ruptures amoureuses? Je suis en rupture amoureuse, ça va pas trop, je me sens vide, comment faire? Aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse, vous l'avez compris. Je trouve que ça fait toujours du bien d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes avec leur rupture amoureuse. Et j'espère que je vais pouvoir vous offrir ma perspective, mes perspectives, parce que j'ai eu deux ruptures amoureuses, très différentes l'une de l'autre, dans deux contextes totalement différents. Avant toute chose, je tiens quand même à me dédouaner, ok? Cet épisode, je le sens, va encore provoquer des déclics dont je veux pas vraiment être responsable, ok? Il y a plusieurs épisodes de podcast où j'ai reçu des retours de DM de « Léa, grâce à toi, j'ai eu le courage de quitter l'école pour faire ce que j'aime. » Ça, ça me rend heureuse. Quand c'est réfléchi, ça me rend heureuse. Quand j'ai parlé d'une de mes ruptures amoureuses, genre dans le premier épisode, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Léa, j'ai sauté le pas, j'ai passé le cap, j'ai quitté mon ex, je me suis rendu compte que je l'aimais pas. » Tant mieux si je vous fais vous sentir mieux, mais je veux pas non plus avoir sur le dos vos ruptures amoureuses, ok? Je vous jure, parfois vous me croisez dans la rue et vous me dites ça. Et d'un côté, je suis trop fière et trop heureuse pour vous, si vous êtes épanouie et si c'est ce qui était bon pour vous. Et d'un autre côté, je me dis, oulala, c'est vrai que de temps en temps, mes paroles et mes dires sur internet et sur Simple Caféine ont un impact. Je suis très heureuse de ça, hein. Mais le nombre de ruptures, je veux pas voir le nombre de ruptures augmenter après cet épisode de podcast. Enfin, c'est pas mon but en tout cas. Personnellement, j'ai eu deux ruptures amoureuses. Je suis pas sortie avec beaucoup de personnes, mais j'ai eu deux ruptures amoureuses. La première rupture amoureuse que j'ai eue, en fait, c'était ma première relation. J'ai littéralement cru que j'allais mourir. Un cas très extrême. Et l'autre rupture amoureuse que j'ai eue, c'est moi qui l'ai décidé. Genre, c'est moi qui ai décidé de mettre fin à la relation, donc ça venait de moi. Et je crois que c'est deux cas de figure hyper intéressants parce que d'un côté, je me suis fait quitter et j'ai vraiment cru que j'allais mourir et que ma vie serait finie et que j'aimerais plus jamais personne. Et dans l'autre cas, au contraire, c'est ma décision. Et justement parce que je savais que j'étais plus heureuse, plus épanouie et que la relation me permettait plus de m'épanouir en tant que personne et d'avancer vers quelque chose qui me ressemblait plus. D'abord, je vais commencer cet épisode de podcast par vous donner quelques faits que j'ai établis à propos des ruptures amoureuses. Parce que je pense que c'est important de passer par là pour comprendre cet épisode de podcast et pour qu'on mette des bases. Aussi pour vous déculpabiliser et pour comprendre les ruptures amoureuses. Premièrement, on est d'accord, il existe autant de ruptures amoureuses que de relations. Chaque relation amoureuse est unique, chaque rupture sera unique. Chaque rupture peut se vivre de différentes manières et même chaque personne au sein du couple, au sein de la rupture, au sein de la relation, de l'ancienne relation, peut vivre la rupture différemment. Finalement, c'est très propre à toi. Et ça, je pense qu'il faut s'en rappeler parce que peut-être que moi, je vais vous dire des trucs et vous allez être là en mode « Bah Léa, pas du tout, moi j'ai jamais vécu ça comme ça » ou « Oulala, je comprends pas quand les gens disent qu'ils se sentent comme ça » ou « Ah bah, je comprends pas, mon ex, il a un peu abusé, il dit qu'il se sent comme ça alors que bon, bah c'est bon, enfin c'est bon, la vie elle continue. » On vit tous nos ruptures différemment, vos amis aussi, votre ex, et il existe autant de ruptures que de relations, elles sont pas vraiment comparables. Mais on peut utiliser les histoires des uns et des autres pour un peu développer son esprit critique sur les autres relations ou comment les ruptures se sont passées et voir si c'est un schéma qui nous plaît, nous dérange ou si on aurait fait différemment. Sans porter de jugement, mais juste en se disant « moi j'aurais peut-être pas fait comme ça ». Deuxièmement, une rupture amoureuse ne doit pas toujours être sanglante et douloureuse. Bon, sanglante, le mot est peut-être un peu mal choisi, Léa, mais une rupture amoureuse, c'est pas toujours à base de cris, à base d'haine, et c'est pas toujours si douloureux que ça. Ça peut paraître très étrange dit comme ça, parce que bien sûr qu'une rupture, ça fait mal. Mais parfois, ça fait pas si mal que ça. Ou c'est pas parce que t'as eu une rupture amoureuse qui a été très douloureuse que la suivante va l'être aussi. 3. Rappelez-vous que une rupture amoureuse, c'est la fin de quelque chose, mais ça veut dire que c'est le début de quelque chose d'autre aussi. Et parfois, on oublie un peu ça. Parfois, on est tellement dans une relation amoureuse, on se sent plus bien, on n'a plus envie, mais c'est plus facile de rester dans cette relation-là parce que tout est établi, plutôt que d'aller chercher quelque chose de... même pas de mieux, mais simplement de plus s'épanouir par soi-même. On oublie que quand il y a une fin à quelque chose, une fin à une histoire, c'est parce qu'on va pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas avec la personne auquel on s'attend, mais tu vas continuer d'écrire ton histoire et avancer dans tes projets et dans ta vie. Et ça, on a tendance à l'oublier. Surtout, je trouve, quand on se fait quitter. Parce qu'on s'y attend pas et c'est normal. Et... loin de là de moi vouloir vous culpabiliser, au contraire, c'est normal de pas être bien. Mais après quelques mois, voire parfois quelques années, c'est bien de se rappeler que, ok, mais attends, mais il y a un après. Il y a eu une fin, mais il y a quelque chose de nouveau, de beau qui va arriver. Les gars, je suis en train de boire un café. Oh, c'est un des meilleurs cafés que j'ai bu de ma vie. C'est des torréfacteurs de New York. Ça s'appelle Sei, S-E-Y. Le café est juste exceptionnel. C'est un café qui vient de... Colombie, c'est un pink bourbon lavé. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bref, désolé, j'ai bu une petite tasse. On revient à nos faits. Troisième, quatrième fait. Un unpopular opinion. Est-ce qu'on peut rester amis avec nos ex? Je vais plutôt amener ça en une rupture peut être respectueuse. Être amis, bon, chacun son propre avis, chacun son parcours de vie. Écoutez, parfois on pense que oui, et puis finalement on se rend compte que non. Et parfois l'inverse. Ça pourrait être un épisode à part entière parce que moi, j'ai une story time. Mais je pense qu'il y a un côté de moi qui a envie de vous raconter. Parce que moi, je trouve ça hyper drôle. Et d'un autre côté, je trouve pas ça sympa et ça peut être un peu humiliant. Donc, je vais me garder une petite réserve pour le moment. Et puis je vais voir comment les mois et les années vont évoluer. On va dire ça comme ça. Ça pourrait être un épisode à part entière. Peut-on rester amis avec nos ex? Ça pourrait être une table ronde. J'aimerais beaucoup en faire une table ronde, tiens. Qui veut bien faire une table ronde avec moi de peut-on rester amis avec nos ex? Mais bref, une rupture peut être respectueuse. Une rupture, encore une fois, c'est pas que des cris. Et une rupture, c'est pas simplement des couteaux dans le dos. Parce qu'en vrai, quand on pense à la rupture, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, on pense souvent à de la trahison. Mais je vous promets que ça existe, des ruptures qui sont faites... Je sais pas si on peut appeler ça de la bienveillance, mais en tout cas, dans du respect, dans une certaine forme de tendresse. C'est pas parce qu'il y a rupture que l'autre personne... à directement trouver quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Une rupture, ça peut aussi simplement être nos chemins se séparent et c'est la vie et c'est comme ça. Moi, je me pose une question ouverte. N'hésitez pas à répondre sur le compte Instagram de Simple Caféine ou si vous êtes sur Spotify, vous pouvez répondre normalement à chacun de mes épisodes de podcast. N'hésitez pas à interagir comme avec moi, genre comme dans des commentaires. Enfin, vraiment, ça me fait trop plaisir de vous lire. Je me pose la question, est-ce que les ruptures font moins mal avec l'âge? Est-ce que les premières ruptures sont, pour tout le monde ou en général, les plus douloureuses? Ou est-ce qu'au contraire... Parce que moi, personnellement, je vais vous raconter mes deux ruptures amoureuses. Et la première, elle m'a fait tellement mal. Elle m'a fait tellement mal aussi parce que je ne faisais plus qu'un avec mon partenaire de l'époque quand j'avais 15-16 ans. Et le fait de s'oublier et de pas devenir quelqu'un d'autre, mais vivre à travers l'autre... Ça fait que quand... En fait, j'avais pas la maturité de me rendre compte qu'il fallait que je reste fidèle à moi-même. Moi, quand je parle de relation amoureuse, j'ai toujours le même schéma qui vient en tête. C'est deux bulles ou deux cercles. Toi, t'es un cercle. Ton ou ta partenaire est l'autre cercle. Vous êtes deux personnes uniques. Et quand vous vous mettez ensemble, les bulles vont se rapprocher et les bulles vont s'entrecroiser. Et ça crée une espèce de troisième bulle au milieu. pour toutes les personnes qui ne sont pas visuelles, elles doivent me prendre vraiment pour une folle, mais moi je suis que visuelle, du coup je dois fonctionner comme ça. Vous avez une nouvelle bulle qui s'est créée et c'est votre espace en commun, c'est ce que vous partagez. Mais vos bulles, elles ne se superposent pas. Vous ne devenez pas une bulle. Vous devenez trois bulles. Vous devenez deux bulles qui s'entrecoupent. Et je pense que quand j'étais jeune, j'avais pas la maturité. Et attention, ne pas avoir la maturité, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a plein de choses dans la vie, moi, où je sais que je suis pas encore assez mature. Et ça veut pas dire que je suis un enfant, que je suis nulle. Non. Tu prends la maturité, je pense, et peut-être de la sagesse aussi jusqu'à la fin de ta vie. Et tu seras plus mature sur certains points, peut-être moins sur d'autres. Ça dépendra de ton expérience dans chacun des domaines, finalement. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Si tu m'écoutes et que t'as l'impression que je te pointe du doigt ou que je te dis tu n'es pas assez mature et c'est pour ça que tu vis ta relation comme ça, c'est pas quelque chose de négatif. Ça se travaille. Bref, tout ça pour dire que ma deuxième rupture était évidemment très différente, contexte très différent aussi, mais m'a fait beaucoup moins mal. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai un espèce de recul justement sur je suis quelqu'un sans l'autre. Et quand j'étais plus jeune, ma première relation, en fait, c'est même pas question d'être jeune, ou c'est vraiment question de les premières expériences. C'est quoi mes limites dans l'amour? C'est quoi les limites à ce que je peux donner à quelqu'un avant de me perdre? Vous voyez ce que je veux dire? On va parler de tout ça dans cet épisode de podcast. Finalement, une rupture amoureuse, c'est quoi? Une rupture, tout simplement, vraiment le mot rupture, c'est la fin d'une histoire. C'est mettre un terme à quelque chose que t'as construit. C'est aussi, et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est mettre fin à quelque chose dans lequel t'as investi. En termes de temps, en termes d'émotion, en termes d'argent aussi en vrai. Je veux dire, quand t'as une relation qui devient sérieuse, moi par exemple avec mes relations à distance, croyez-moi qu'il y en a eu de l'investissement financier. C'est de l'amour. Mais c'est un luxe que de pouvoir faire ça et c'est un investissement. Je vais pas commencer à aller d'un pays à l'autre juste parce que c'est cool. Genre c'est vraiment, il y a de l'investissement, il y a une prise de conscience de genre c'est plus que simplement du temps quoi. Il y a quelque chose d'autre aussi derrière. C'est aussi de l'espoir investi. Et le plus souvent, finalement on se projette dans une relation amoureuse. Et au moment de la rupture, je me demande si c'est pas ça qui fait le plus mal. Déconstruire un peu tout ce que t'as projeté avec une personne sur du long terme et que tu te sois fait quitter ou que tu quittes la personne au moment de la rupture ou au moment de la prise de décision ou au moment de conscientiser que la relation va pas aller plus loin, tu déconstruis un peu tout ce que t'avais projeté pour ton partenaire, pour toi, pour vous. Et c'est là que je trouve que c'est peut-être ça qui fait le plus mal. Rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans les potins, rentrons dans ma première rupture amoureuse, ou plutôt dirais-je, mes premières ruptures amoureuses. Parce que dans cette relation, il n'y a pas eu qu'une rupture, il y a eu au moins en un an et demi, 9 ruptures amoureuses. Hop là, le jackpot. Il m'a tellement quitté souvent. C'était tellement malsain, c'était presque une running joke. À table devant ses parents, c'était « Non, on n'est plus ensemble. » C'est ce qu'il disait. Ouais, classique, schéma classique, typique d'une relation toxique, d'un adolescent assez narcissique qui n'avait pas confiance en lui, et d'une jeune fille qui était en construction, qui n'avait jamais connu l'amour, et qui était à la merci. À la merci et qui aurait donné sa vie, son argent, son temps, qui aurait tout fait pour essayer de le sauver et de le rendre heureux. Comme si c'était ma destinée de vie. Je vous dis ça avec beaucoup de sarcasme et de second degré, et de recul surtout parce que ça fait beaucoup d'années. Honnêtement, je ne sais pas comment mes parents sont passés à travers ça, parce que mes parents ont tout vu. Je suis enfant unique, je suis leur première fille. Ils m'ont vu un peu me perdre dans cette relation, ils m'ont vu aller très très mal à certains moments. Et je sais pas comment ils ont fait, quoi. À l'époque, j'avais l'impression que de leur en vouloir, qu'ils ne me comprenaient pas, mais en fait je pense qu'ils m'ont vraiment accompagnée. Donc maman, papa, si vous écoutez ça un jour, merci. Maman, je suis sûre que c'est déjà en train de verser une petite larme là, parce que ça a été des années traumatisantes pour ta vie. Et on va pas pleurer, mais je le déteste pas, mon ex. Est-ce qu'on rentre en confession, vous et moi? Je le déteste pas. Je le déteste pas parce que grâce à cette relation, après j'ai eu vraiment des jolies relations amoureuses. Mais je pense que ça a été une des périodes les plus compliquées de ma vie, quand j'étais jeune. Et en même temps, j'aime pas lui donner du crédit, mais c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas grâce à lui que j'ai commencé les réseaux sociaux, mais... Non, je lui donne pas de crédit, pas du tout, vraiment pas. Allez hop, bye. Je vous raconte cette histoire, parce que là vous devez vous dire, Léa, on veut savoir l'histoire. Je vais pas vous raconter toute l'histoire en détail, mais en vrai, si vous voulez, je pourrais vous faire une grosse story time, avec des screens, avec genre plein de choses, où je vous raconte ma première relation amoureuse, mais là je veux plus parler du contexte et de la rupture, vu que c'est le titre du podcast. Quand j'avais 14-15 ans, je me suis mis en couple avec mon meilleur ami. En gros de gros, le gros résumé, c'est il déménageait dans le sud de la France tout seul, avec ses parents. Et son ex, qui l'aimait d'un amour énorme, venait de le quitter. Donc quoi de mieux finalement que de se rabattre sur la personne avec qui tu passes tes journées et tes nuits à parler, ta meilleure amie, moi, qui est là pour toi, qui t'adore et qui t'idolâtre un peu, pour la remplacer et pour combler un vide finalement. J'étais un bon bouche-trou et malheureusement pour moi, c'était ma première relation amoureuse. Il avait 1 an ou 2 ans de plus que moi, donc déjà aussi c'était un peu genre wow. Il avait un certain charisme, une certaine emprise finalement. C'était vraiment un truc très malsain, mais qui très bad boy, mais qui à l'époque moi me plaisait. Pourquoi sortir avec un gentil garçon quand tu peux sortir avec quelqu'un qui dit que tout le monde est méchant avec lui, qui se dévalorise beaucoup, mais pour se faire valoriser par les autres. Vous voyez un peu le genre de personne à qui je parle. Et moi, je pense que quand t'es jeune, ou en tout cas, petite Léa, quand elle a ressenti de l'amour pour la première fois, elle a eu vraiment beaucoup de mal à le doser et à le contrôler. Je pense surtout que petite Léa, à ce moment-là de sa vie, elle avait besoin d'être aimée, besoin d'approbation. C'est l'adolescence, elle n'avait pas confiance en elle. À l'époque, j'étais pas meilleure amie avec mes parents. J'avais envie d'avoir un jardin secret. J'étais assez isolée. J'avais des amis à l'école, mais dans la vie de tous les jours, j'étais assez isolée en soi. Donc, finalement, j'étais une proie très facile parce que très fragile. Morale 1 de l'histoire, si je peux me permettre, pour être dans une relation saine, dans une relation simple, dans une relation SCS, moi, je pense qu'il faut déjà avoir une bonne relation avec toi-même. J'ai des amis qui n'ont jamais connu de relation comme ça très très toxique. Et ce que je remarque chez ces gens-là, c'est qu'elles étaient bien entourées, qu'elles étaient bien stables, qu'elles avaient de la bonne confiance en elles, qu'elles étaient grindées, quoi. Il n'y a pas eu la place à ces petits cons dans leur vie. Genre, je pense à Inès, ma meilleure amie Inès. Alors oui, elle n'a pas eu que des relations amoureuses, waouh! Mais elle n'est pas tombée face à quelqu'un qui l'a manipulée, qui l'a retournée dans tous les sens. Elle ne s'est pas accrochée à cette personne. Elle avait une certaine lucidité des personnes qu'elle voyait. Et elle ne s'est pas isolée avec ces personnes-là non plus. Ce que moi, je faisais finalement. Parce qu'il habitait dans le sud de la France. Moi, j'habitais à Bruxelles. Je venais le voir, il venait me voir. Quand j'allais le voir, on passait nos moments ensemble. Et il ne rencontrait pas beaucoup de mes amis. Et je n'avais pas non plus le droit d'avoir des amis. En tout cas, j'avais pas le droit d'avoir des amis garçons ou pas le droit d'aller en soirée. Sinon, j'étais une grosse... Et on m'insultait sur la place publique, sur Twitter. C'est bon pour vous ? Beaucoup de personnes, à ma place, à cet âge-là, auraient dit « T'es un grand malade, dégage de ma vie. » Moi, non. J'étais la fautive et j'étais la personne qui devait avoir un meilleur comportement envers son amoureux. Vraiment, je vous fais le schéma typique d'une relation malsaine et c'était la relation dans laquelle j'étais. Donc autant vous dire que mes critères avec Samuel, je sais ce que je veux maintenant. Je vais pas me refaire avoir, je pense pas. Et en vrai de vrai, si je peux faire un petit parallèle, je me suis fait arnaquer une fois mon compte en banque. J'étais au Canada et j'ai subi une fraude. Et pareil, à quelle période de ma vie est-ce que j'ai subi une fraude et pourquoi j'ai subi une fraude ? J'étais très... j'aime pas ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser. Parce que c'est pas celui-là que je veux utiliser, mais je vais quand même l'utiliser. Fragile. J'étais un peu en détresse parce que je cherchais un nouvel appartement. Et j'étais à un moment un peu de faiblesse parce que j'étais un peu en panique de pas trouver, etc. Et bah, les arnaqueurs sont arrivés à ce moment-là et ont réussi à m'arnaquer sur le coup du stress et le coup de... J'avais besoin d'aide et je me sentais seule. Et ils m'ont arnaqué. Je me suis fait arnaquer dans ma première relation amoureuse, pareil. j'avais besoin d'être aimée et j'ai dit oui à tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu un espèce de pattern de moi, pour moi, je pense que pour être dans une relation saine, il faut déjà être dans une bonne relation avec soi-même, avoir des bonnes bases avec soi-même. Parce qu'en vrai, même si tu finis par être avec quelqu'un qui est sain parce que tu tombes sur quelqu'un de bien, parce qu'évidemment, quand ça va pas trop dans nos vies, on peut quand même tomber sur des personnes bien, il n'y a pas que des personnes malveillantes qui vont rôder autour de nous. Tu vas pas... Comment dire ça sans être méchante ou trop rude, mais je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être compliqué d'avoir une relation équilibrée et une relation dans laquelle tu te sens en confiance avec ton partenaire si toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Et ça va être difficile, ce que tu vas refléter sur la relation va peut-être pas avoir un, va peut-être pas être le plus positif et le meilleur finalement. À savoir que premièrement, ton partenaire ne peut pas te réparer. Si ça va pas, ton partenaire peut être d'un soutien pour toi et c'est important d'être soutenu et d'être entouré, mais il va pas pouvoir te réparer. J'utilise vraiment des anglicismes. Il va pas pouvoir te fixer, il va pas pouvoir genre te réparer, te faire aller mieux. Ça, ça vient de toi-même. Et je pense qu'on est vraiment plus à tendance à rencontrer des personnes malveillante, moins bonne pour nous, à ces moments-là. Mon ex, par exemple, avait besoin d'attention. Il avait besoin de confiance en lui. Il avait besoin d'approbation. Et il l'a trouvé dans les filles. Résultat, il m'a trompée à plusieurs reprises, que ce soit physiquement ou émotionnellement, on va pas jouer sur les mots, ok ? On sait tous ce que c'est tromper ou pas. Évidemment, on a chacun nos limites. Mais à partir du moment donné où tu me dis que je peux pas parler à des garçons, je peux même pas leur faire la bise alors qu'ils sont dans ma classe et que je peux pas leur adresser la parole. Alors que toi, sur les réseaux sociaux, t'appelles des meufs bébés dans des lives quand tu penses que je suis en train de dormir. Monsieur, il faut se remettre en question. À un moment donné, ça va dans les deux sens. Allez hop. J'espère vraiment que ces petits trucs sarcastiques que je dis, ça va vous permettre, si vous êtes dans une situation comme ça, de réaliser des petits trucs. Moi, ça me fait un peu rire de le dire sur ce ton-là. Il faut vraiment que je vous raconte le contexte parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre la rupture. Et donc cette personne-là me disait souvent qu'il me quittait, puis il allait me bloquer, puis il m'insultait en public sur Twitter. Et un jour, il m'a vraiment quittée. Je me souviens plus honnêtement, j'ai un peu fait un blackout du moment où il m'a quittée, mais je me souviens qu'il m'a quittée. Et je me souviens, ce serait pas exagéré de dire que ça m'a anéantie, parce que j'avais tellement basé toute ma vie sur lui, j'étais tellement isolée et tellement... je voulais tellement juste lui. Et j'étais vraiment isolée de mes amis. C'était mon centre du monde. J'aurais pu changer de pays pour aller vivre. Je cherchais en fait, quand j'avais 16 ans, à changer de pays. En fait, je cherchais à aller vivre à Paris parce que lui voulait redéménager à Paris quand il avait 18 ans. Donc moi, je cherchais un internat pour aller vivre à Paris. J'étais vraiment dans des plans de vie de « je veux faire tout ». Je veux tout faire pour être avec lui. J'étais tellement isolée que vraiment, pendant la rupture, la vie n'avait plus de goût. Et je crois honnêtement que j'ai mis plus longtemps à me remettre de cette rupture amoureuse que la durée totale de la relation. Ça a presque duré, je pense, 1 an et demi, mais il m'a trompée au bout de 9 mois, donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et je pense que j'ai bien mis 2 ans avant de re-ressentir quelque chose. En fait, j'avais aucun intérêt envers quelconque relation. Je pensais que personne pourrait m'aider, j'avais aucune valeur, j'avais aucune confiance en moi. Vraiment, j'avais pas l'impression de pouvoir vivre sans lui et j'avais pas l'impression que quelqu'un d'autre pourrait m'aimer parce qu'il m'avait fait croire que personne d'autre ne pourrait jamais m'aimer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un à qui je plaisais, et ça je l'ai compris parce que quelqu'un me l'a clairement dit, et là j'ai eu un déclic de « Ok, en fait je peux plaire à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre peut me plaire et la vie ne s'arrête pas là. » Parce que pendant la rupture, j'étais vide, j'avais plus de goût à la vie, j'étais désemparée, j'étais seule, je me sentais incomprise, j'avais vraiment l'impression que personne pouvait comprendre la douleur dans laquelle j'étais. J'étais seule, je me sentais désorientée, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai perdu aussi beaucoup de poids et j'étais triste, quoi. J'étais profondément triste et je voulais tout faire pour me remettre avec lui. Je voulais tout faire pour réintégrer sa vie. Je comprenais pas, il n'y avait pas de raison pour laquelle la relation s'était finie. Il n'y avait pas eu de bonne raison. Il m'a trompée, je suis revenue vers lui. J'ai toujours tout fait pour lui. J'ai essayé d'être la meilleure des amoureuses. Je m'entendais bien avec sa famille. Il n'y avait pas de raison. Et bon, bien que parfois, il ne faut pas de raison pour avoir une rupture amoureuse, tu cherches quand même à comprendre. Parce qu'il m'avait tellement rendue addicte à lui, dépendante de lui, et il m'avait tellement fait croire qu'il finirait sa vie avec moi et que ce serait la seule personne qui m'aimerait, que comment voulez-vous que moi, à côté, je puisse comprendre pourquoi est-ce que finalement lui me quitte. Et je vais dire un truc qui est chiant, et qui est vraiment qui est chiant, mais je vais le dire parce que c'est la vérité. Le remède, c'est le temps. C'est Big Flo et Oli, hein, qui ont une chanson comme ça qui dit « Le seul remède, c'est le temps ». Et je vous jure que pour les relations amoureuses, ça fait chier de l'entendre, mais ça a été le cas. J'ai mis tellement longtemps à m'en remettre. Je l'ai revu plusieurs fois, j'ai essayé vraiment de recoller les morceaux et tout. Le seul remède, c'est le temps. Et puis un jour, ça m'a plus rien fait. Un jour, ça m'a... Là, je vous en parle avec beaucoup de sarcasme et beaucoup de recul. Je n'ai plus aucune émotion, ni même de haine, ni même de tendresse, ni même de... Je pourrais l'avoir demain devant moi, sincèrement. Je pense, je sais même pas si je voudrais lui adresser la parole. Pas méchamment, mais juste, je cherche même plus à comprendre parce que je sais que le problème ne venait pas de moi. Il s'est excusé des années après en me disant, j'ai pas été cool avec toi. C'est bien. La vérité, c'est qu'on peut pas prévoir une rupture amoureuse. On peut pas prévoir le fait de se faire quitter. On n'a pas le contrôle de ça, en fait. Ce sur quoi on a le contrôle, c'est le avant et pendant la relation. Je pense qu'une rupture peut être mieux gérée quand on est bien entouré. Une relation toxique aussi. On peut pas la prévoir. Mais moi, je sais que je suis tombée sur lui dans un moment vraiment fragile de ma vie. Et si tu vis ce genre de rupture, promis, ça va aller et tu vas pouvoir passer à autre chose. Une rupture amoureuse n'est pas une fin en soi. C'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Et même si c'est inenvisageable pour toi, même si ça te paraît impossible, et même si c'est chiant de se faire dire ça, je te promets qu'après la pluie, il y a le beau temps. Vraiment, j'ai envie de vous serrer dans les bras en ce moment si vous êtes en peine de cœur, en rupture amoureuse, si vous avez vécu quelque chose de vraiment compliqué. Le seul remède, c'est le temps, et c'est vrai. Le temps, s'entourer, être gentil avec soi-même, extérioriser, parler, essayer de comprendre, grandir. Let it go aussi, c'est chiant, moi je sais pas let it go, mais let it go, vraiment, genre laisser aller. Donc ça c'était ma première rupture amoureuse. Si vous en vivez des comme ça, je vous promets, vous êtes pas seule. Et puis ma deuxième rupture amoureuse, elle a été tellement différente. Elle m'a beaucoup moins fait mal. Elle m'a beaucoup fait genre travailler. J'y ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup pensé. Elle m'a fait beaucoup culpabiliser. Elle m'a pas rendue heureuse, hein. Vraiment j'étais pas... Et ça a pas été facile du tout. Il y a une différence... Vraiment avec ça. Elle n'était pas douloureuse, mais elle n'était pas facile. Cependant, j'ai relevé trois choses qui font que, je pense, la rupture a été un peu plus délicate. Premièrement, c'est moi qui ai mis fin à cette relation. En fait, il y a quatre choses. Il y a trois raisons pour lesquelles cette rupture m'a moins fait mal, ou en tout cas a été plus délicate, en sachant que c'est moi qui ai initié cette rupture. Premièrement, j'étais à une place dans ma vie où j'avais confiance en moi. Quand j'ai décidé de rompre avec mon ex, j'étais vraiment à une place dans ma vie où j'avais confiance en moi, en ce que je faisais, j'avais des projets. Alors je dis pas que toute ma vie était cédée, hein, pas du tout. Mais juste, je trouvais du sens dans les choses que je faisais et j'étais heureuse. Les sphères de ma vie allaient bien. Je me sentais sur mon X. Et donc quand, je vais encore utiliser une métaphore, quand j'ai décidé de me séparer de cette personne-là, alors que je suis restée avec des années et que vraiment on s'entendait très bien et qu'il n'y avait pas de, il y avait pas d'animosité, quand ce pied de la chaise-là est parti, donc lui, parce que j'ai décidé de mettre fin à cette relation, j'ai pas tant été déséquilibrée que ça. Parce que toutes les autres sphères de ma vie, tous les autres pieds étaient très stables. Deuxièmement, je pense que j'avais plus de maturité aussi. Je savais que j'étais une personne à part entière. Quand je vous parlais des deux bulles tout à l'heure, qui deux bulles uniques, et puis quand on les rapproche, ça fait une troisième bulle, et pour moi c'est ça une relation saine, c'est partager des choses ensemble, mais c'est pas finir une entité à part entière, c'est vraiment rester des entités, chacun, chacune. Je savais que j'étais ça justement, je savais que j'étais quelqu'un sans lui, que lui était quelqu'un sans moi. On partageait des choses, on partageait des passions, on partageait un appartement à un moment donné quand même, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas mis fin à la relation plus tôt, c'est parce que on partageait pas mal de choses qui compliquaient un peu plus. Mais en soi, j'étais vraiment une personne à part entière et lui aussi. Dans nos groupes d'amis, dans nos personnalités, dans nos centres d'intérêt, on partageait des choses, mais on était chacun de notre côté aussi. Et c'est ce qui faisait notre force finalement, Et troisièmement, j'avais plus de modèles de rupture autour de moi. Ça peut paraître bête, mais à l'âge de 15-16 ans, oui, je voyais des gens qui se séparaient, mais moi, j'avais pas vraiment entendu d'histoire de relations malsaines. J'avais pas vraiment entendu, oui, il y avait des gens qui se séparaient, ok, des gens qui s'étaient trompés à l'école. Mais moi, une relation à distance, quelqu'un qui me trompait sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui... J'avais pas de modèle, j'avais pas de... Ok, ni même de recul de ça c'est normal, ça c'est moins normal, ça c'est pas ok. Et puis aussi, j'avais compris qu'une rupture pouvait être quelque chose de calme, pouvait être quelque chose pour le mieux, et qu'une rupture c'était pas juste négatif. Et quand j'avais 15-16 ans, encore une fois, c'était pas quelque chose que je pouvais concevoir. Pour moi, c'était si ça va, pourquoi on se quitterait ? Donc le fait d'agrandir un peu ces modèles de rupture et pourquoi est-ce que les gens se séparent, pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble, bah ça a rendu un peu aussi la rupture plus délicate. Potentiellement, si j'avais pas eu ces modèles de rupture sains, calmes, plus doux, j'aurais pensé qu'il fallait attendre une grosse rupture, donc pousser la relation jusqu'à la fin, l'épuisement, avoir une grosse dispute ou être vraiment contrarié ou être vraiment différent pour que ça explose. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de finir une relation amoureuse avec quelque chose qui explose et qui... Non, il y a moyen de mettre fin à une relation d'une manière beaucoup plus douce. Je dirais pas que c'est... Si je dirais que... Quitter quelqu'un, ça fait mal. Quitter quelqu'un, c'est aussi prendre l'espèce de responsabilité, même si on n'est pas responsable de l'autre, mais c'est quand même prendre la responsabilité de... Je dirais pas qu'être la personne qui quitte, c'est plus facile, moins douloureux. Je pense que c'est juste vraiment différent. Je pense que quitter une personne, ça peut aussi se faire dans le respect. Et quand c'est fait dans le respect, dans la communication, dans l'échange... ça peut être bien fait. Et je pense que j'ai plusieurs règles justement pour rendre le fait de quitter quelqu'un moins malsain que ça peut l'être dans certains cas. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent quitter quelqu'un. Si tu quittes une personne, s'il te plaît, si tu décides de la quitter ou de le quitter, ne reviens pas. Ça, c'est quelque chose, ça devrait être une règle d'or. Et ça devrait, je pense que c'est la base du respect, c'est quand c'est fini, n'essaye pas de revenir. C'est horrible. C'est horrible de faire des back and forth dans une relation et de... Je trouve ça indécent. Ensuite, je pense que communiquer, expliquer, c'est la base du respect. Être honnête et être clair dans une rupture, c'est ce qui va aussi permettre à l'autre personne de passer à autre chose. Et c'est ce qui fait qu'une rupture est saine. Je dis pas que quitter quelqu'un, c'est facile non plus, et je dis pas que c'est une position confortable. Je sais personnellement que j'ai mis un petit temps avant de quitter la personne que je voulais quitter parce que c'était plus facile de rester. Parce que, encore une fois, c'est plus confortable de rester dans un certain confort. Mais crois-moi, sur le long terme, c'est pas ce qui va te rendre heureuse. C'est pas ce qui va te rendre heureux. Dans les deux cas, c'est douloureux. C'est douloureux de mettre fin à un idéal. C'est douloureux de mettre fin à une projection d'un certain avenir qu'on a fait avec cette personne. Et ça pour tout le monde. Pour la personne qui se fait quitter ou pour la personne qui quitte. Il n'y a pas de rupture facile. Il n'y a pas de rupture semblable. Il n'y a pas de guide de la rupture non plus. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a un après. Après la pluie, il y a le beau temps. La fin d'une relation, ça signe aussi le début de quelque chose de nouveau. Alors après vos ruptures, prenez le temps de vous asseoir et de comprendre ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez plus, quel genre de relation vous appréciez, celles qui vous font du mal ou celles qui vous ont fait grandir. Après une rupture, réapprenez à vous connaître. Parce que je pense que c'est la clé des fondations de vos prochaines relations, votre relation avec vous-même. Réapprenez à vous connaître, seul, à vous découvrir. Les ruptures amoureuses, c'est pas fun, les ruptures amoureuses, ça fait mal, certaines plus que d'autres, même si elles sont pas comparables. Mais je vous promets que ça signe le début de quelque chose de nouveau. Je vous fais un câlin de loin si vous êtes en ce moment en rupture amoureuse, si en ce moment ça va pas trop, si vous vous questionnez par rapport à votre relation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, vraiment. C'est vous, avec vous-même. Mais j'espère que cet épisode aura pu vous éclairer. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de plus de détails, si vous avez envie de plus de story time, n'hésitez pas à me le dire, avec grand plaisir. J'ai quand même plus parlé de ma rupture malsaine parce que, en soi, une rupture saine, déjà j'en ai fait un épisode à part entière. Et puis, je crois que c'est le premier épisode de mon podcast. Je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté, vraiment. Prenez soin de vous, ok, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres, toujours, même dans les ruptures amoureuses. SCS, bye. Bye bye!
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.